Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Equinox 106 FM dans l'émission Un Nouveau Monde. Comme la semaine passée, nous nous intéressons aujourd'hui à la communication non violente avec Sophie Grosjean. Bonjour Sophie.
Bonjour Franck.
Merci d'être venue de nouveau une deuxième fois dans notre émission pour parler de la communication non violente.
Avec plaisir.
Donc nous allons suivre ce que nous allons reprendre ce que nous avions dit la semaine passée, un petit résumé et continuer. Je dis d'abord bonjour également à Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Franck.
Tout va bien.
Bonjour.
Dans le meilleur des mondes ?
Dans le meilleur des mondes, oui.
Ok, c'est magnifique. Donc, on redémarre notre émission de la semaine passée. En tout cas, on la continue sur la communication non violente. De quoi avons-nous parlé la semaine passée qui est important pour cette semaine-ci à retenir ?
Alors oui, si je fais un petit résumé de ce que j'ai dit la semaine dernière, donc la communication non violente, donc c'est un processus qui a pour objectif, pour intention, d'améliorer la qualité de connexion, de relation entre les êtres humains. Donc d'abord la qualité de connexion à soi-même, qui est un préalable indispensable à une qualité de relation et de connexion à l'autre, à l'interlocuteur. Alors, ce que j'ai dit aussi d'important, c'est que ce n'est pas une technique de communication, c'est vraiment une manière d'être, c'est acquérir, développer, intégrer une sorte d'art de vivre, j'ai même envie de dire un art d'être en vie, puisqu'il s'agit non pas d'écouter, de se connecter à ce que je pense ou à ce que l'autre pense, mais à ce que je vis, c'est-à-dire à mes émotions et à mes aspirations. Alors, pour rappel, il y a 4 grandes familles d'émotions. Il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et il y a beaucoup de mots pour exprimer ces 4 émotions, parce qu'il y a une gradation. La peur, par exemple, je peux être un peu inquiet ou terrorisé, donc il y a toute une gradation et tout un éventail de mots, et c'est comme ça pour chacune des émotions. Donc déjà, une première chose, c'est qu'on peut aussi, on va apprendre à développer notre vocabulaire pour exprimer vraiment le plus justement possible ce que nous ressentons. Les besoins, en fait, c'est le cœur du processus que Marshall Rosenberg a développé, qui est donc la communication non violente. Et la notion de besoin est quelque chose qui relie, qui est commun à tous les êtres humains, quel que soit leur âge, leur culture, leur appartenance sociale, leur religion, etc. Nous partageons tous les mêmes besoins. Quelques exemples, la reconnaissance, l'acceptation, l'épanouissement, le sens, etc. etc. Il y a des listes disponibles pour ceux que ça intéresse. Ce qui est plus compliqué, en fait, à comprendre et surtout à intégrer, c'est que ce qui est important, c'est que de ne pas mêler son besoin à une personne spécifique. Par exemple, dire j'ai besoin de reconnaissance de mon patron, parce que ça, c'est très limitatif, très enfermant et donc très source de difficultés, de souffrances, de tensions. De ne pas non plus mêler mon besoin à une action ou à un objet. Je n'ai pas besoin d'un GSM, même si, ma foi, on dirait parfois qu'ils sont greffés à certains d'entre nous. Mais le GSM en lui-même n'est pas un besoin, il contribue à nourrir toute une série de besoins. Que dire encore d'important ? Oui, donc je vais me relier vraiment à ce qui se vit chez l'autre, à ce qui se vit chez moi. Le but étant vraiment de construire des relations qui stimulent plutôt, qui suscitent plutôt la collaboration, la motivation, la créativité et le plaisir d'être ensemble que les tensions, les problèmes. On est à la recherche de solutions ensemble plutôt que de mettre le focus sur les problèmes.
Alors la communication n'implique pas spécialement qu'il y ait de la parole ?
Non, c'est-à-dire que je peux, effectivement, les mots sont seulement 7%. C'est surtout, quand vous dites, il n'y a pas besoin de parole, c'est surtout que je communique déjà, même sans parler. Donc l'énergie qui émane de moi, mon non-verbal, si je fronce les sourcils ou pas, tout ce que d'ailleurs les animaux ont à leur disposition, hein, montrer les dents, hérisser le poil, tout ça, on ne sait peut-être pas vraiment hérisser nos poils, mais il y a tout un tas de choses qui sont perceptibles, même par les humains, et qui ne se disent pas.
Est-ce qu'un enfant, d'ailleurs, va mieux comprendre que les paroles ? En fait, l'enfant sera plus sensible à toute la gestuelle autour, probablement.
Il sera très
justement
réceptif.
Cette vibration, comme vous dites, qu'on émane.
Oui, tout à fait. Les enfants, plus ils sont petits, plus ils sont sensibles à ça. D'ailleurs, j'ai fait une expérience, moi, avec mon fils. Il était déjà plus grand, il avait 6 ans. Et un jour, je suis venue dans sa chambre et je lui demandais, en utilisant les bons mots, ma grammaire était parfaite par rapport... J'étais au début de mon apprentissage en communication non-violente et j'avais vraiment les bons mots que j'avais appris en formation. Et en fait, mon intention, l'énergie qui m'habitait, c'était pas du tout... J'étais pas prête à m'ouvrir à ce qu'il vivait, à sa réalité et à discuter avec lui, à consacrer un peu de temps au dialogue et à la relation. J'avais juste vraiment envie qu'il me fiche la paix là et qu'il cesse de m'appeler, parce qu'en fait il ne s'endormait pas. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord maintenant de ne plus m'appeler? Il m'a dit, mais maman, est-ce que c'est une demande ou une exigence? Et alors ça peut paraître un peu amusant. Je lui avais expliqué la différence entre une demande et une exigence et je vais l'expliquer dans quelques minutes. Mais il ne me posait plus la question comme il avait l'habitude de le faire par jeu pendant tout un temps. Il me le demandait que ces soirs-là où je lui demandais de ne plus m'appeler. Et il m'a fallu plus d'un an, Franck, pour me rendre compte qu'en fait, mes mots étaient justes, mais mon intention ne l'était pas. C'est-à-dire que je faisais semblant, enfin, sauf que je n'en étais pas consciente, mais lui percevait qu'il y avait une distorsion entre ce que je disais, qui avait l'air d'être une vraie demande, est-ce que tu serais d'accord d'eux, et l'énergie qui émanait de moi, qui était maintenant, fiche-moi la paix parce que je ne supporte plus que tu m'appelles.
Et donc, il avait capté l'énergie.
Il avait capté l'énergie. C'est et ça. Donc il était réellement dans la confusion, d'où sa question, mais maman, est-ce que c'est une demande ou une exigence? Alors, peut-être c'est l'occasion pour moi d'expliquer, parce que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps, par contre, d'aborder cette étape-là. Donc, la communication non-violente est un processus en quatre étapes. D'abord, on essaye de transformer nos jugements, nos pensées en faits observables. Donc, je ne m'étendrai pas trop là-dessus aujourd'hui, mais d'essayer de décrire les faits et les choses que l'on voit comme une caméra vidéo.
Donc, c'est un travail sur soi-même, on est bien d'accord.
Oui, déjà, c'est un premier pas. Ensuite, exprimer nos émotions, exprimer dans la foulée les besoins qui engendrent nos émotions, puisque ce sont nos besoins, nos aspirations, satisfaites ou non, qui sont à la cause des émotions que nous ressentons. Et la quatrième étape, c'est la demande. Alors, généralement, je vais privilégier les demandes de connexion. Et j'avais dit la semaine dernière, je vais par exemple demander à la personne, mais qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça? Ça, c'est une demande de connexion. Et je vais privilégier ça avant de passer aux demandes de solution. Une solution, ce serait par exemple, est-ce que tu serais d'accord de ranger ta chambre? Ça, c'est une demande de solution. Alors, la caractéristique grammaticale d'une demande, c'est qu'elle se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une question. Donc, si la tendance ou l'envie est là de dire « range ta chambre tout de suite, sinon ça va aller mal pour toi », je suis clairement pas dans une demande, je suis dans une exigence. Alors, c'est pas trop grave d'être dans l'exigence, sauf que si ça se répète trop souvent, ou si, voilà, il y a en tout cas ce que j'appelle, moi, une facture qui peut partir dans l'univers. Alors, ça veut dire quoi, une facture qui part dans l'univers? Ça veut dire que ça a un coût d'être dans l'exigence, souvent. Je vais donner un exemple. Alors, sous la pression, quand j'exige, je mets la personne sous pression, quelque part. Et sous la pression, la plupart d'entre nous avons deux options à notre disposition. Soit c'est résister, se rebeller, soit c'est se soumettre, par peur de la sanction. Dans le cas de la rébellion, c'est simple, en fait, et c'est ce qui arrive souvent, notamment avec les adolescents. Un adolescent, si vous lui dites, bah, tu ranges ta chambre, sinon tu ne sors pas ce soir, ou t'es puni pendant les deux semaines qui viennent, la réaction habituelle, c'est la rébellion, donc ça va être une porte qui claque dans le meilleur des cas, et ça peut être accompagné de mots plutôt désagréables à entendre. Ça, c'est le coût. Il y aura un coût relationnel. Mais c'est clair, c'est celui qui a mis la pression qui reçoit la facture. Okay. Dans le cas de la soumission, c'est plus subtil et c'est ce qui arrive notamment avec les petits-enfants qui vont à l'école. Et je prends ce cas-là parce que c'est assez simple à expliquer. Un tout petit enfant de 5-6 ans qui va à l'école primaire, on lui demande entre 8h15 et 10h à peu près de rester assis sur sa chaise sans bouger et en silence. Et pour ces petits êtres pleins de vie, pleins d'énergie, qui ont envie de bouger, de dire des tas de choses à leurs copains et leurs copines, c'est vraiment, quelque part, c'est très très dur de rester assis en silence. Donc ils mettent ce que j'appelle le couvercle sur cet élan de bouger, de s'exprimer, etc. Et puis à 10h, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, c'est qu'on sonne la récréation. Et on lâche dans la cour de récréation ce que j'appelle, moi, des cocottes minutes. Alors en fonction de la taille de l'école, il y en a 50, 100 ou 200 mini cocottes minutes qui vont être lâchées dans la cour. Alors une cocotte minute, vous savez, ça fonctionne, il y a une soupape de sécurité pour éviter que ça n'explose. Chez les enfants, comme chez les adultes d'ailleurs, mais chez les enfants, ces enfants-là, à 10h, il y a toute une série, heureusement, d'enfants dont la soupape de sécurité fonctionne très bien. Ceux-là vont crier, courir, jouer au ballon, ils vont faire sortir la pression d'une manière saine. Mais il y a une série d'enfants pour lesquels la soupape de sécurité est dysfonctionnelle. Pourquoi? Soit parce que leur seuil de tolérance est moins important, moins élevé que d'autres, soit parce qu'ils sont déjà sous pression en dehors de l'école, à la maison, parce que l'environnement familial est difficile, ou bien quelqu'un est très malade, ou peu importe les raisons. Ceux-là vont... Le risque, c'est qu'ils explosent. Alors, la cocotte minute va exploser sur quelqu'un d'autre qui, donc c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire que quelqu'un d'autre va recevoir la facture. J'envoie la facture à quelqu'un d'autre qui n'est pas l'institutrice qui a mis la pression pendant la matinée en demandant le silence et de ne pas bouger, mais le plus souvent, ça va être un autre enfant qui va se prendre soit une insulte, dans le meilleur des cas, soit un coup de poing sur le nez ou un coup de pied dans le tibia, ce genre de joyeuseté qu'on rencontre dans les cours de récréation. Et puis, il y a des enfants qui vont craquer à 10 heures, il y en a qui vont craquer à midi, il y en a qui vont tenir jusqu'à 4 heures. Et là, c'est pas un enfant dans la cour de récréation qui va ramasser la facture, ça va être soit le parent qui récupère l'enfant à la sortie de l'école, soit le petit frère ou la petite sœur qu'on va embêter d'une façon ou d'une autre, soit le chien. Alors je dis exprès en boutade, pas les chats, parce que les chats justement sont très sensibles à ces énergies qui émanent des gens et ils vont se planquer. Et un chien, c'est tellement en quête de reconnaissance et de caresses, etc., qu'il va rester dans les pieds et c'est lui qui va se prendre finalement souvent la facture aussi. Et nous avons tous connu ça, Franck, hein, je suppose que vous, Christophe aussi, une mauvaise journée, beaucoup de pression, des bouchons sur la route, un patron, des clients difficiles, etc. On rentre à la maison, qui ramasse la facture ? Généralement, c'est le conjoint, ou les enfants, ou le chien, de nouveau, qui est dans les pieds, qui traîne. Mais il y a quelqu'un qui paye. Ça, c'est la deuxième manière d'envoyer la facture. Donc, première manière, la rébellion. Celui qui a mis la pression reçoit la facture. Deuxième manière, la soumission par peur de la sanction. Et là, soit j'explose sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec la pression qui a été mise. Soit, troisième manière d'envoyer la facture, je ne vais pas l'envoyer à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas exploser sur quelqu'un. Je vais imploser et m'envoyer la facture à moi-même. Et ça, ben, c'est pas mieux, en fait. Alors, moi, par exemple, ma première implosion, c'est ma nuque qui se bloque. Quand je m'énerve, j'ai d'abord la nuque qui se bloque, puis je peux avoir un bouton de fièvre, ou bien pire. Et moi, je suis allée, j'ai testé tout pour nos auditeurs et pour mes participants au stage. J'ai même testé le burn-out. Je ne me suis pas écoutée assez pendant, et j'ai été trop loin. Et à un moment donné, la pression était trop forte et mon organisme a lâché.
On va faire une première pause musicale et on va revenir après sur ce dont on parle pour l'instant. Christophe, je vous laisse choisir ce que vous avez envie. Vous êtes le maestro. Allons-y gaiement. Faites votre choix.